Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café. Bondy Blog Café.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre de Radio Campus Orléans. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thérapie encore trop méconnue en France, la médiation animale. Pour vous en parler, j'ai choisi d'aller rencontrer une association située à Saint-Denis-de-l'Hôtel qui accueille différents publics avec comme objet la médiation animale. La médiation animale, qu'est-ce que c'est ? Pour y répondre, je vous propose une première partie avec une interview de Patricia. Elle est à l'origine de la création de l'association Les Animaux de l'Arc-en-Ciel, fondée en 2018. Dans cette interview, elle va vous parler de son parcours, de la création de cette association et nous expliquer ce qu'est la médiation animale.
Moi, c'est Patricia, chargée de projet en médiation par l'animal. J'ai un parcours atypique. J'ai travaillé dans la fonction publique. J'ai fait 5 ans pour être préparatrice en pharmacie également. Il y a eu un moment où j'avais besoin de me retrouver. Donc, j'ai fait assistante maternelle pendant 10 ans pour être en accord avec moi-même et pas dans le jugement. Et pour moi, c'était essentiel de retrouver qui j'étais et d'être en accord avec moi-même. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. Et j'ai quitté la fonction publique, je suis en mise en disponibilité de droit, parce qu'il fallait vraiment que je sois, que je trouve cette voie. Les animaux m'ont moi-même apporté un équilibre depuis toujours, et il fallait que je trouve cet équilibre entre les animaux et la différence. Et à force de faire des recherches, j'ai découvert la médiation par l'animal. Donc j'ai décidé de suivre une formation, donc ça a été un gros combat pour le faire financer, voilà. Et je suis actuellement diplômée de chargée en protection par l'animal, donc en médiation par l'animal, pardon, reconnue par le RNCP. Donc j'ai fait cette formation sur Colmar. J'ai également le CCAD.
Alors, donc, RNCP.
Registre national des certificats de capacité professionnelle et le CCAD.
Alors, le CCAD, c'est quoi ?
Maintenant, ça porte un autre nom. À l'époque, c'était le certificat de capacité animaux domestiques et essentiel pour travailler auprès de personnes extérieures avec des animaux. Enfin, voilà, c'est la loi. C'est capital, on doit respecter toutes ces choses-là, ainsi que des assurances et tout ça.
Tu es diplômé, et alors où est-ce que tu commences à pratiquer la médiation animale ?
Donc ça a été un gros combat, puisque dans le Loiret, ouvrir les portes et parler de médiation animale, c'était un petit peu perçu comme quelque chose de surréaliste. Donc l'association a été créée en 2018, je suis sur ce projet depuis 2015. Actuellement, ce n'est toujours pas une source de revenus. Nous peinons à venir aux besoins des animaux, mais voilà.
Tu nous disais que ce n'était pas facile de créer ce genre d'association.
C'est autre chose,
pourquoi ? C'est que la médiation, c'est méconnu ?
Alors, la médiation est méconnue. Et lorsque j'ai lancé le projet, c'était d'autant plus méconnu. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu anarchique de se lancer dans un projet et de se dire avec mes animaux, aux yeux du monde, je vais changer le monde, alors que c'est pas l'idée. C'est juste, je vais aider les personnes différentes et apporter un peu d'étoiles dans les yeux et une petite pierre à l'édifice. Ça a permis à mes enfants et à moi-même de m'en sortir. Donc, j'avais des convictions.
Que tu as toujours ?
Évidemment que j'ai toujours. Et la plus grande difficulté, ça a été d'ouvrir des portes. Dans le Loiret, c'était encore compliqué. Donc, beaucoup de lettres, beaucoup de mails, beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de non-réponses. Et finalement, petit à petit, ça s'est ouvert. Des entretiens ont débouché. Maintenant, On a beaucoup de contrats qui perdurent et qui débouchent sur des résultats qui sont au-delà de mes espérances, qui embarquent mes filles qui étaient concernées au départ par ce projet et nos animaux qui sont issus de recueil principalement changent de comportement également au contact des personnes fragilisées. Donc je pense que le résultat, il est juste évident.
Il y avait une demande, en fait, à laquelle il n'y avait pas de réponse de la part de plusieurs institutions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer avec quelles institutions, justement, tu travailles ?
Actuellement, on travaille essentiellement en milieu psychiatrique, donc dos maisons, des foyers d'accueil médicalisés, avec les adultes autistes, avec des enfants en MEX, maisons d'enfants à caractère social, donc retirés aux familles pour des conditions familiales difficiles. Occasionnellement en EHPAD. Pour l'instant, ils ne sont pas encore ouverts au point de faire des séances régulières, même s'ils reconnaissent qu'il y a des résultats incroyables. On l'a fait en milieu fermé Alzheimer. On travaille également avec des haltes garderies, relais assistantes maternelles pour sensibiliser aussi les jeunes enfants à la nature, l'écologie et le fait de prendre soin.
L'association, elle existe grâce aussi à la mobilisation de bénévoles ?
Oui, effectivement. Donc mes deux premiers grands bénévoles ont été mes enfants. Ensuite, on a réussi à conquérir des citadins qui viennent de très loin, puisque c'est Nantes, et qui sont régulièrement dans le secteur et qui sont tellement investis dans l'asso qu'on a pris un temps partiel pour pouvoir s'investir à fond et nous aider. Et on a aussi des personnes qui nous soutiennent moralement et c'est très important également.
Mmh. Quels sont les projets que tu souhaiterais développer aujourd'hui ? Bon, ça fait seulement 3 ans d'existence, hein, même si le projet il remonte à 2015. Vers quoi tu voudrais tendre ?
Le souhait le plus cher que nous pourrions avoir, je pense que ce soit moi ou nos bénévoles, c'est d'avoir un lieu d'accueil. Alors, pas une ferme pédagogique. Nous, on veut rester sur le thérapeutique. Pédagogique peut-être en plus, mais ce n'est pas notre objectif. Travailler vraiment sur le thérapeutique et pouvoir avoir tous nos animaux au quotidien près de nous, du matin jusqu'au soir, la nuit, pouvoir veiller sur eux, accueillir dans des bonnes dispositions, avoir de l'eau sur place, avoir de l'électricité, avoir des sanitaires pour les résidents aussi que nous accueillons et pouvoir réunir tout ça et vraiment sur être un projet à la fois écolo et thérapeutique. Je pense que la priorité de ce projet, elle est là, quoi.
Alors, il y a une demande de don qui a été faite via la plateforme Hello Asso, que vous retrouverez justement en lien sur l'article de cette émission. Le thérapeutique, parlons-en. Donc, tu as suivi une formation en médiation animale, enfin, ce n'est pas l'intitulé exact. Explique-nous la médiation animale, qu'est-ce que c'est ?
La médiation animale, c'est la thérapie assistée par l'animal. Donc, je ne suis pas zoothérapeute, je n'ai pas cette prétention, je ne suis pas thérapeute. Par contre, c'est une formation reconnue et qui permet de travailler de façon très précise avec des animaux sélectionnés auprès de personnes fragilisées. On respecte des choses comme la théorie de la forme de Gestalt, c'est-à-dire qu'on démarre la séance avec un animal bien précis et ensuite, on travaille sur différents objectifs, hein, que ce soit affectif, moteur, motricité fine, motricité globale. Par contre, on termine toujours la séance avec l'animal qui a ouvert la séance. C'est hyper important. Dans le sens où, quand on termine la séance, il ne faut pas que les résidents ou les bénéficiaires soient frustrés qu'on retire les animaux. Donc, certes, on retire des animaux avec qui on a travaillé, avec qui on a échangé, partagé de l'affect, mais ils disent au revoir à l'animal à qui ils ont dit bonjour. Et c'est capital pour que la séance se termine bien et sans frustration.
Hmm. Voilà. Alors, j'imagine que tu dois travailler en collaboration avec les encadrants de ces structures. Tu nous as parlé d'objectifs psychomoteurs, d'objectifs psychologiques, enfin de différents objectifs thérapeutiques. Comment est-ce que tu travailles justement avec les encadrants qui accompagnent les publics pour répondre à des besoins, par exemple psychomoteurs?
Alors, tout dépend des structures. Quand on travaille en MEX, on sait que les informations sont relativement confidentielles. On est sur des enfants qui ont une carence affective, un passé compliqué, le jugement de l'autre. Donc on travaille essentiellement sur le fait de prendre soin de l'animal, pour prendre soin de soi, prendre soin des autres et progressivement le partager avec les camarades qu'on n'a pas choisi non plus. Pour ensuite recréer un lien social. Voilà. En IME, on avait par exemple un jeune qui avait une histoire de vie très très lourde, qui était extrêmement dans la violence. Tout ce qui joignait la mère et l'enfant était compliqué pour lui. Histoire de vie vraiment très compliquée. Le fait de lui amener de temps en temps des bébés et sa mère, ça a suscité plein de questionnements malgré son âge. Hein. On vient d'apprendre qu'il avait quand même pas loin de 18 ans. Et il n'est plus dans la violence, il est dans la compréhension, dans l'incompréhension, dans le questionnement. Et il peut nous demander 15 fois sur une séance, je comprends pas, c'est les bébés, c'est la maman, c'est le papa. C'est très compliqué pour lui, mais il intègre au bout d'un an et demi qu'il y a un papa, une maman, des enfants, et que c'est quelque chose de normal, et qu'on prend soin des bébés. Quelque chose, enfin, c'est quelque chose qu'il n'a pas connu. Et il est moins dans la violence avec son environnement. Et on arrive à mettre des mots quand il part un petit peu en vrille, en fait. On le vit aussi en MEX. En MEX, maison d'enfants à caractère social, où on a travaillé avec des grands jeunes, qui avaient entre 16 et 18 ans. Ou quand on est arrivé avec le chihuahua, qui était dans le ricanement, l'air de dire, c'est qui cette petite nana avec son chihuahua? Et là, je me suis dit, oh. Et puis là, on a sorti les deux canets corso. Donc 50 kilos et à l'époque 30 kilos. Et là, on a vu les jeunes de cité, hein, mais en perdition. Enfin, je veux dire, c'est pas de leur faute. Et on a sorti les chèvres également, et qui étaient complètement perdues. Et en même temps, fascinées. Et d'un seul coup, progressivement, les rassurant, un lien s'est créé. Il y en a qui ont accepté de me donner la main, de prendre le chien, de donner des friandises aux chiens. Et en fait, cet après-midi, il a été juste sensationnel. Ils ont promené Ranton, qui est un chiot canet corso qui était déjà impressionnant, la maman, qui fait 50 kilos, les chèvres qui, pour eux, enfin, des chèvres, c'est des biches, c'est des cerfs, c'est tout ce qu'on veut, mais ils connaissent pas. Et ils ont accepté de nous faire confiance. Et c'était juste incroyable et magique. Voilà. Et avec ce type de public, on commence par des animaux impressionnants pour canaliser et cadrer, parce que sinon on n'a aucun crédit. Et on a réussi progressivement à retourner vers le chihuahua de 2 kilos, les lapins, les cochons d'Inde, où là ils se sont lâchés. Ils ont fait preuve de tellement d'affection, tellement de tendresse, que c'était juste énorme. Où certains nous ont dit en partant, s'il te plaît, je peux monter dans ton camion, tu m'adoptes, je mangerai pas beaucoup, je te coûterai pas cher et je t'aiderai. Donc voilà, faut vivre avec ça aussi. Mais c'est des expériences qui sont incroyables, quoi.
Ce jour-là, 5 résidents d'un foyer d'accueil médicalisé situé à Fleury-les-Aubrais étaient venus bénéficier d'une séance de 2 heures de médiation animale. J'ai rencontré Émilie et Océane, toutes deux encadrantes de cette session.
Océane Bourdray, encadrante au sein du foyer d'accueil médicalisé Anaïs.
Émilie Bobo, infirmière au sein du foyer Anaïs aussi.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes venu faire aujourd'hui ici, à Saint-Denis-de-l'Hôtel ?
Donc en fait, on a pris un groupe de résidents pour venir faire de la médiation animale. Donc on a un groupe de 5 résidents maximum pour pouvoir faire correctement les accompagnements et puis que les résidents puissent en profiter aussi. Donc on vient ici pour s'occuper aussi des animaux et que les résidents puissent aussi être apaisés, avoir une relation avec l'environnement, avec les animaux.
C'est un travail, on va dire, assez de longue haleine. Enfin, c'est quelque chose qui se fait sur la durée pour que les résidents puissent aussi prendre leur marque, apprennent à connaître les animaux. Parce que quand on n'a jamais été en contact avec un lama, un cheval ou des chèvres, c'est pas toujours facile la première fois. Donc c'est quelque chose qui se fait quand même assez régulièrement. C'est pour ça qu'ils viennent toutes les semaines ou au max, enfin toutes les 2 semaines selon après leurs autres activités, etc. Et moi qui suis là par exemple depuis pas très longtemps, je vois la différence entre la vie au sein du foyer et la vie qu'ils mènent là quand ils sont sur le terrain de Patricia. Ils sont totalement différents des personnes qui vont être fermées ou de mauvaise humeur. On peut les retrouver Enfin, tout le contraire, quand ils arrivent et qu'ils sont auprès des animaux, ils sont avenants, ils participent à tout ce qu'on leur propose. Ils repartent avec le sourire. Enfin, voilà, c'est vraiment le côté où l'animal, lui, il n'est pas là. Enfin, voilà, il n'y a pas de...
Il est pas dans le jugement. Voilà. Les animaux ne sont pas du tout dans le jugement. Donc les résidents se sentent beaucoup plus à l'aise. Et pour travailler la confiance en soi, la responsabilité, l'estime de soi, en fait, le travailler par le biais de l'animal, c'est là où tout est bénéfique, en fait. On a des résidents qui peuvent être assez renfermés quand ils vont sur l'extérieur avec au sein de la société où le regard il est vachement compliqué. Là, ils sont en contact avec des animaux, ils ne sont pas dans le jugement et c'est là en fait où on voit tout leur potentiel, où ils peuvent plus facilement communiquer avec nous, où on peut aussi rentrer dans une dualité avec eux. Donc c'est tout bénéfique. Après voilà, c'est comme ma collègue disait, c'est un travail qui s'effectue sur du long terme. On a des résidents qui ont un parcours de vie très très compliqué et la confiance ne s'acquiert pas comme ça en une séance. Et en fait, là, on se rend compte que petit à petit, ça commence à apporter ses fruits. On peut avoir, on a plus facilement contact avec les résidents. Les résidents viennent plus aussi facilement vers nous parce qu'on fait partie aussi de cette activité. Donc je pense que le bénéfice, il est là aussi. C'est dans la prise en charge aussi au niveau du quotidien. C'est beaucoup plus facile pour eux aussi après de venir aussi vers nous, même vers les infirmiers. Donc
même auprès de Patricia, ils trouvent une personne ressource parce que elle est quand même extérieure à la vie du foyer. Ils se sentent écoutés, c'est un moment privilégié. C'est voilà, et ils sont vraiment avec elle. Ils savent que voilà, elle est pas à temps plein sur le foyer et que voilà, ils peuvent venir vers elle pour leur parler de tout, de rien. Enfin voilà, quand on arrive, vous voyez, vous avez vu tout à l'heure, elle leur a demandé comment ça allait, s'ils voulaient en parler ou pas. Et puis des fois, bah voilà, elle prend 5 minutes à part avec l'un, avec l'autre. Ils font un petit truc de leur côté, mais voilà, ça permet aussi. D'avoir ce moment privilégié et où ils se sentent écoutés par quelqu'un d'extérieur qui n'a pas le même regard que nous ou qui n'a pas été dans le conflit de 10 minutes avant qu'on arrive ou des choses comme ça. Et du coup, c'est bien pour eux.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de médiation animale. L'animal fait tiers entre vous, les résidents, et donc l'animal, il est là pour favoriser la communication entre vous et les résidents également.
Oui. Après, on peut passer. Donc là, comme vous pouvez le voir tout à l'heure, c'est que des fois, on peut utiliser l'animal pour aller faire une promenade, tout ça, pour essayer d'enclencher en fait un moment d'échange aussi avec le résident. Donc ça permet de pouvoir traiter énormément de sujets. Donc ça permet des moments d'échange assez importants. On peut travailler aussi un peu l'estime de soi, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, quand on voit qu'un résident n'est pas bien, on peut essayer de travailler autour de l'animal en disant « bah là, tu vois, il a l'air un peu triste, animal, quoi. Est-ce que toi, tu te sens à peu près pareil ?» Ou on peut travailler aussi les émotions, le ressentiment par le biais de l'animal. Donc c'est aussi important de faire ça avec nos résidents. Parce que c'est vrai que c'est des personnes qui ont énormément de difficultés, des fois aussi à verbaliser ce qu'ils peuvent ressentir. C'est des personnes qui sont assez introverties et qui gardent énormément pour eux. Après, ils n'ont pas la même notion que nous aussi par rapport à la souffrance, tout ça. Donc, réussir à enclencher ça par le biais de l'animal, ça peut être très très important pour nous.
C'est quoi la médiation animale ?
Pour nous, la médiation animale, c'est ça permet de pouvoir rentrer en relation avec autrui, ça permet d'avoir un regard complètement différent, ça permet après quand on fait des activités extérieures où c'est des personnes lambda qui voient nos résidents, les résidents sont pas forcément à l'aise alors que là on arrive à les mettre beaucoup plus facilement à l'aise, on arrive à rigoler avec eux, il y a moins de stress, il y a moins d'angoisse, il y a moins de tout ça. On a un résident qui a des problèmes moteurs et le fait d'être avec un animal permet de lui d'apprendre à se canaliser un peu et en fait ça limite aussi, on voit que ça limite aussi énormément ses tremblements parce qu'il a tellement il veut tellement faire bien avec l'animal et il est dans le respect qu'il va essayer de se canaliser. En fait, ça permet aussi de travailler sur certaines choses, notamment avec les lapins, tout ce qui est moteur. Donc il y a plusieurs aspects dans la médiation animale. On a l'aspect un peu psychologique, donc comme on a expliqué un peu auparavant. Et il y a aussi un peu un aspect un peu plus moteur où quand ils brossent les chevaux, les personnes qui ont des difficultés avec la motricité fine, tout ça, ça leur permet aussi de pouvoir se canaliser, de pouvoir faire attention, de pouvoir agir sur la concentration aussi. On a un résident qui a des difficultés de concentration. Le fait de venir aussi avec l'animal, ça le permet de le concentrer sur une tâche précise et ça évite qu'il soit éparpillé à droite, à gauche. Donc la médiation animale peut travailler énormément de choses en fait. Je pense que pour les personnes extérieures, c'est un petit peu compliqué à pouvoir voir tout ça, mais nous, on peut se rendre compte qu'au quotidien, ça travaille et le moteur, et l'aspect psychologique, et pas mal de fonctions cognitives peuvent être travaillées grâce à ça, en fait.
Avec toujours cette tierce personne au milieu qui est l'animal, et pour eux qui n'ont pas l'habitude forcément tous les jours d'être en contact avec eux, l'animal, ça apporte aussi... c'est quelqu'un qui connaît pas le handicap, qui met pas de mots sur tous leurs problèmes psychologiques, etc. Et c'est l'animal, il est là, il reçoit ce qu'on lui donne et il redonne en échange. Et voilà, il y a des choses que par exemple nous on n'arrive pas à faire avec Thiago le lama que vous avez vu tout à l'heure, que les résidents arrivent. Par exemple, nous on peut pas lui faire de bisous ou le caresser à certains endroits, etc. Et les résidents, ils arrivent, ils le prennent à deux mains comme ça, ils l'embrassent de partout et nous on reste choqués et on se dit ah ouais ok, bon ils ont vraiment des relations particulières avec eux parce qu'il y a cette confiance, je pense, qui s'installe et le fait que l'animal vraiment aussi ressent, je pense que la personne je sais pas s'ils sentent vraiment la différence, mais qu'ils sont vraiment pas là pour leur faire de mal et il y a vraiment, c'est une relation qui se fait entre les deux et c'est là toute la magie d'être avec des animaux parce que c'est des choses qui se passent pas forcément avec les êtres humains et voilà.
Non, après le monde de handicap, surtout le handicap psychique, c'est très très peu reconnu à l'heure actuelle en France. Donc on entend très très peu parler au niveau des documentaires, des informations, tout ça. De toute façon, les résidents le ressentent aussi des fois quand on va sur l'extérieur. Le regard n'est pas forcément le même, ils le ressentent. Donc ici, en fait, ils peuvent donner libre cours à ce qu'ils sont, quoi. Sans forcément avoir le regard des personnes à l'extérieur, tout ça. L'animal, il ne le fait pas, ça. Il ne le fait pas.
Vous connaissiez, avant de mettre en place ce partenariat, vous connaissiez déjà la médiation animale ou vous en aviez déjà entendu parler?
L'une
et l'autre, oui.
Moi, dans mon ancien établissement, qui était une masse, il y avait un monsieur qui venait avec ses animaux dans la structure. Voilà, c'était une fois tous les 15 jours, quelque chose comme ça, qui venait avec ses lapins, ses hamsters, ses poules, etc. Donc oui, c'est ça qui m'a fait connaître vraiment ce qui était... la médiation animale, mais qui a aussi ses limites parce que c'est sur l'établissement, parce que c'est selon aussi si les encadrants, aides-soignants, etc. S'investissent aussi auprès, parce que on peut accompagner la personne, la poser là et s'en aller faire autre chose et après ça crée rien du tout quoi. Donc, et c'est vrai que moi quand je suis arrivée ici que j'ai découvert cette autre façon de faire en venant ici sur un terrain avec des animaux qui viennent pas forcément dans l'établissement parce que amener un cheval dans un établissement c'est pas forcément le truc le plus facile quoi. Mais c'est une autre façon et du coup c'est différent parce qu'on voit pas, ils sont pas pareils sur le foyer comme ils sont au terrain aussi, même si il y a toujours cette relation avec l'animal, mais je vois la différence entre venir avec quelques animaux et le faire vraiment en extérieur, couper un peu de toute cette vie qu'on peut avoir institutionnelle. Et c'est différent. Après, c'est déjà bien si la structure peut se permettre d'avoir quelqu'un qui vient et que les personnes puissent quand même être en contact avec les animaux, hein, c'est sûr. Hein, mais c'est différent, quoi.
Donc, moi, je connaissais... Après, moi, j'ai ma mère qui travaille dans ce milieu, elle est zoothérapeute, donc ça aide. Donc, elle n'est pas dans le Loiret, Mais j'ai toujours baigné dans ça. À la base, elle est infirmière de secteur psychiatrique et elle est zoothérapeute. Donc, je faisais du bénévolat avec elle quand j'allais à la SPA avec les patients, tout ça. Donc voilà, je connais les bienfaits et on va dire que j'ai baigné dedans, donc ça aide un peu. Ça aide un peu.
Comment vous définiriez le rôle que vous jouez, vous, justement, dans ces sorties de médiation animale ?
Bah, par exemple, pour moi qui est arrivé dans la structure en février, bah, déjà ça m'a permis aussi que les résidents me connaissent un peu mieux. Enfin, parce que voilà, c'est vrai que c'est des résidents. Enfin, quand on est résident, on a besoin aussi d'avoir cette confiance envers les personnes qui s'occupent de nous, etc. D'apprendre à les connaître. C'est un travail assez de long cours. Enfin voilà, même là, ça fait que quelques mois. Ils n'ont pas tous. Enfin voilà, mes collègues qui sont là depuis plusieurs années, ils se tournent plus facilement vers eux parce qu'ils les connaissent depuis plus longtemps. Mais du coup, voilà, de me voir aussi de cette façon, voilà, donc c'est un truc où, voilà, au moins une fois par semaine, bah, on est là, et on est en petit groupe, donc ils apprennent à me connaître un petit peu plus. Donc il y a déjà aussi, pour moi, c'est bénéfique en étant jeune arrivé. Mais après, il y a aussi ce que Océane disait tout à l'heure, c'est qu'on est... On est là s'ils ont besoin de... Enfin voilà, quand ils ont envie de s'ouvrir un petit peu plus ou qu'ils ont un truc sur le cœur, des fois on fait un peu ce relais là, parce que la dernière fois, il y avait deux résidentes qui s'étaient un petit peu chicanées et qui du coup ont voulu se dire pardon, etc. Bah, elles nous ont demandé de les réunir pour pouvoir de discuter entre elles, etc. Et donc du coup, on fait le lien... On fait le lien et puis on est aussi là auprès d'eux pour les guider avec les animaux. Si tu veux pas faire, bah qu'est-ce que tu veux faire à la place? C'est tout un travail parce que bah oui, on pourrait les laisser mais livrer à eux-mêmes, est-ce qu'ils feraient la même chose? C'est pareil, parce que bon, Patricia, voilà. C'est bien d'être plusieurs parce que elle peut. Du 1 pour 1, bon, on peut pas parce qu'on n'est pas assez nombreux, mais voilà, c'est déjà là, voilà, 3 pour 5, c'est quand même assez confortable dans un encadrement, donc je sais pas
si... Oui, bah, puis après, de toute façon, on peut pas faire non plus sans Patricia non plus, donc... Oui. C'est vrai que nous, on a nos aises parce que ça fait des années que... Bah, ça fait des années, ça fait quelques temps qu'on vient. Mais après, sans forcément une intervenante qui connaisse les animaux, tout ça, on pourrait pas faire tout ça non plus. Après, les résidents, je pense que quand on est sur le terrain ici, ils ont aussi un autre regard. Parce que notre rôle, il n'est pas le même quand on est au sein de la structure et quand on est sur des activités extérieures. Nous, au sein de notre structure, on est quand même obligé de mettre un cadre. On est quand même en collectivité où il y a quand même des règles, des choses comme ça. Là où on va être beaucoup plus cool sur l'extérieur, là, on va avoir un rôle un peu plus cocooning quand même, où on va être un peu plus dans l'écoute, on va pouvoir prendre le temps aussi d'être un peu plus dans l'écoute, d'être un peu plus dans la relation avec eux, chose que des fois au foyer c'est pas forcément possible tout le temps de faire parce que bah, on a quand même un groupe assez important, les effectifs sont bon voilà peuvent être un peu compliqués. Et donc là, en fait, ces sorties-là peuvent aussi nous rentrer plus facilement en contact. Et puis, ils ont un autre regard. C'est vrai que nous, notre rôle, il n'est pas le même quand on est sur cette activité-là. Là, moi, je ne suis pas là pour dire, bah non, faut pas que tu mettes tes chaussettes là, ça se met là. Et là, c'est vraiment beaucoup plus cool, c'est vraiment beaucoup plus zen. Et je pense que ça apporte beaucoup et à eux et même à nous. Nous, c'est être... Ne pas être toujours en tension, c'est plutôt pas mal. Et je pense que les résidents peuvent le ressentent aussi. Donc ça apporte, je pense que ça apporte aux deux.
Je vous propose d'écouter la suite de l'interview que Patricia m'a accordée, où elle nous explique encore plus en profondeur les intérêts de la médiation animale.
Qu'est-ce que les animaux peuvent apporter à l'humain ?
L'animal ne porte pas de jugement. Il n'a pas le regard qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Et l'animal, quand il est face à une personne différente, l'absence de jugement et sa tolérance, elle est beaucoup plus extrême que face à quelqu'un qui n'a pas cette fragilité. On le retrouve avec plusieurs de nos animaux qui peuvent être méfiants par rapport à une histoire de vie ou leur provenance et qui, avec nous, vont avoir une réticence au départ, et qui finalement, face à des personnes fragilisées, vont tout tolérer. Mais il y a l'absence de jugement, en fait. Je pense que l'animal, le jugement, il ne connaît pas. Que c'est quelqu'un... Enfin, les animaux sont spontanés. Et qu'en fait, les personnes fragilisées n'ont pas non plus de filtre. Sont spontanées. Et quelque part, il y a une osmose, quelque chose qui fait que ça fonctionne d'office. Et qu'il y a une tolérance qu'il n'y a pas forcément face à un individu à part entière, en fait.
Parler de médiation animale aujourd'hui, c'est peu commun. Je pense même que c'est assez difficile pour le grand public de comprendre ce que c'est, dans la mesure où les animaux ont une place d'infériorité dans la société. Alors je m'explique, je pense par exemple à la consommation de viande, où il n'y a plus le respect de l'animal, qui n'est même plus d'ailleurs considéré comme du vivant, hein, mais comme quelque chose d'industriel qu'il faut vendre au plus bas prix. On peut penser aussi à tout ce qui se passe, j'allais dire, dans les zoos, dans les cirques avant, même si maintenant c'est interdit, où l'animal est présenté enfermé face à des publics humains et non pas en contact avec l'humain, c'est-à-dire qu'il y a une barrière aussi physique, hein, entre l'animal et l'humain. La médiation animale aussi, c'est peut-être redonner sa place aux animaux, et aux humains, comme quoi en fait il est possible que nous vivions ensemble, mais en dehors des rapports de domination, alors que ce soit pour des raisons alimentaires ou pour des raisons de divertissement, hein. Alors je dis ça pendant qu'il y a une poule là qui est juste à côté en train de marcher. La médiation animale est très méconnue aujourd'hui.
C'est encore méconnu, surtout en France, je pense. En Belgique, en Suisse et dans le Sud, c'est nettement plus développé. Ils sont en avance sur nous, comme pour beaucoup de choses, évidemment. Après, il est évident que voilà, les animaux de base, ça reste alimentaire, clairement. Un lapin se mange, un cheval se mange, et voilà. Enfin, c'est la chaîne alimentaire, il faut le respecter. Maintenant, ça va au-delà de tout ça, dans le sens où quand on apprend à les connaître, et je suis la première à être surprise par rapport à la poule dont tu viens de parler, c'est que, pour moi, une poule, c'était une poule, clairement. Et en fait, on a trois poules qui sont juste incroyables et qu'on emmène en hôpital psychiatrique et qui sont en capacité de se percher sur les épaules de personnes que personne ne peut capter, où tout le monde y travaille de photos parce que c'est des personnes qu'on n'arrive pas à voir 10 minutes avec nous et qui restent 30 minutes, voire 45 minutes sur place parce que la poule est sur leur épaule. Et on n'a rien fait pour que ces poules fassent ça, elles sont juste extraordinaires. Et moi, mon regard sur les poules n'est plus le même qu'avant. Pour moi, c'était juste des animaux alimentaires qui font des œufs, une poule, enfin voilà. Et en fait, une poule, il y a l'affect. Quand on s'en occupe, il y a un relationnel. C'est la même chose pour les lapins. Les lapins sont capables d'être propres, sont capables d'être domestiqués. Et sans se battre, on a récupéré une lapine... On a mis 8 mois à pouvoir la toucher. Et maintenant, médiation animale, c'est une des meilleures lapines qu'on puisse avoir. Elle est absolument incroyable. Et faut le temps de se faire confiance, d'apprendre à se connaître. Et ça reste des êtres vivants. Même si ce sont des animaux, effectivement, que l'on pourrait consommer. Mais si on s'intéresse à eux, à leur comportement, qu'on s'attache à eux et qu'on leur apporte de l'affection, ils nous le rendent, mais 15 000 fois plus, quoi.
Est-ce que ça permet pas de pallier, alors je le dis en plus en contexte de crise sanitaire, à une perte de relations physiques entre les humains? Il peut y avoir très vite des ambiguïtés à faire un câlin à un copain, une copine, et encore plus là je pense pendant le confinement où maintenant la distanciation sociale nous a fait penser que l'autre pouvait être un ennemi, en tout cas potentiellement nous rendre malades, nous contaminer. Est-ce que la présence et est-ce que les animaux ne prennent pas cette place justement qui a disparu dans les rapports humains? On peut les toucher, on peut les caresser.
Alors ça peut paraître ambigu, mais je pense que c'est l'inverse. Parce qu'en fait, pour amener des animaux vers d'autres personnes, il faut qu'il y ait un autre être humain. Et en fait, ces animaux sont des animaux médiateurs. Et ce sont ces animaux qui permettent d'entretenir, et alors de créer parfois, quand on ne se connaît pas, et d'entretenir le lien social. Le deuxième confinement nous a fait très peur, effectivement, l'activité n'est pas facile. Et au final, grâce à nos animaux, on a réussi à capter 2 nouvelles personnes qui étaient en recherche de choses plus naturelles, plus saines, plus vraies, et qui nous ont laissé notre chance, qui nous ont fait faire des séances découvertes. Et au final, on n'a aucun échec, ça a matché à chaque fois. on crée des liens de ouf. Moi, je retrouve ce que j'ai toujours cherché, c'est que grâce aux animaux, je trouve ma place dans la société, soyons honnêtes. J'arrive à apporter une petite pierre à l'édifice par rapport aux personnes différentes. Et là, on se rend compte aussi que le personnel soignant a besoin aussi de ces temps de pause et que sans les animaux, on ne serait jamais rencontrés. Certains deviennent des relations plus perso parce que ça fonctionne bien. Et là encore, en fait, grâce aux animaux et grâce à l'association, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais pas rencontrées sans eux. On a rencontré des structures et des professionnels qu'on n'aurait pas rencontrés sans eux. Et on a des résultats et... Enfin, merci aux animaux, parce que malgré le confinement, en fait, ça a continué, ça a perduré. On a cherché à entretenir des activités pour les bénéficiaires qui étaient justement interdits d'activités extérieures. Et nous, on fait de l'itinérance. Et ça a maintenu, en fait, le lien social. Mmh. Donc, je pense que grâce à eux, c'est l'inverse. Mmh. On entretient et on maintient le lien social, quoi.
Et puis, je pense à une époque, donc c'était avant la Seconde Guerre mondiale, où un Français sur deux était agriculteur, donc était dans un environnement rural où il y avait forcément une ferme, des poules, des lapins. On a perdu aussi cette proximité avec la nature, avec l'urbanisation peut-être aujourd'hui, où il y a de plus en plus de cités, de grandes villes, et une désertification des campagnes.
Alors, on l'a perdu en apparence peut-être, mais quand on travaille en EHPAD... On réalise qu'il y a toutes ces personnes âgées. On a travaillé aussi en milieu fermé, donc Alzheimer. Et la présence des animaux leur permet de revivre des souvenirs incroyables. Les personnes qui les encadrent depuis des années découvrent ces personnes qui sont capables d'exprimer des choses verbalement, physiquement.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Sachez que vous pouvez soutenir l'association ou vous tenir au courant de ses actualités en vous rendant sur le site Facebook Les Animaux de l'Arc-en-Ciel. Merci à toutes et à tous et à très bientôt sur Radio Campus Orléans.
Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondyblogcentre.fr.
Bondy Blog Café.
Bondy Blog Centre.
Bondy Blog Café.